Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition d'information, le chef de l'État annonce l'organisation du forum de la paix dans la province de la Tchopo en vue de traiter notamment les conflits intercommunautaires Mbolé-Lengola. Il l'a dit hier au cours du Conseil des ministres tenu à Kisangani. Après un avant-midi calme, hier vendredi, de nouveaux affrontements ont opposé dans l'après-midi les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo à Katobo, au Nord Kivu. Cela a provoqué un autre mouvement de déplacement des populations qui résistaient encore dans la zone. Notre invité, c'est le commissaire provincial de la police nationale congolaise en Ituri. Le général Ngoy Sengeloa parle du succès enregistré dans le cadre de l'opération de traque des véhicules sans plaque d'immatriculation à Bounia, lancée depuis plus d'un mois. Bienvenue à tous. Organisation du Forum de la paix dans la province de la Tchopo. Cette question a fait l'objet de la communication du président de la République hier vendredi à Kisangani au cours de la 19e réunion du Conseil de ministres. Il s'agit, selon Félix Tshisekedi, de traiter notamment les conflits intercommunautaires Mbolé-Lengola. Le chef de l'État a évoqué également la promotion du sport dans la province de la Tchopo, particulièrement le football. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil de ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, extrait proposé par Alain Irung.
Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'organisation du Forum de la paix dans la province de la Tchopo. Le président de la République est préoccupé par la crise intercommunautaire à laquelle la Tchopo est confrontée, notamment entre les Mbolé et les Lengola, et à des conflits des limites internes et interprovinciales avec les provinces voisines du Maniema, du Otuélé, du Bazuélé, de la Tchouapa et de l'Ituri. Cette province fait face à des menaces d'insécurité provenant de groupes armés dans les territoires de Bafassendé, sans oublier la détérioration des infrastructures socio-économiques des bases. Le président de la République a tenu à saluer les consultations initiées par le gouvernement au travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour trouver une solution durable visant la restauration de l'autorité de l'État, la paix, la réconciliation, les développements, la reconstruction et autres, en vue de restaurer la paix entre les différentes communautés de la province de la Tchopo.
Notez qu'initialement prévu pour vendredi, la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international de Bangboka à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, est reportée à samedi selon la présidence congolaise. Et puis, les ministres de la Santé annoncent pour ce samedi le gel de tous les biens de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Docteur Roger Kamba l'a dit hier vendredi à la Radio-Télévision Nationale Congolaise à Kisangani, quelques minutes avant les conseils de ministres. Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce de la résiliation du contrat avec les gestionnaires. Docteur Roger Kamba précise aussi que l'hôpital passe maintenant en service public. On écoute ses explications dans cet extrait proposé par Alain Hurou.
Depuis très longtemps, cet hôpital, malheureusement, a été géré de telle manière que finalement la population n'y accédait pas. Et cet hôpital a été géré de telle sorte que, malheureusement, en cas de besoin, comme maintenant, quand il y a un pox ou quand il y a eu Covid, eh bien, on ne pouvait pas y accéder. Au-delà de ça, c'est une structure de santé complètement nationale qui avait été cédée seulement en gestion. Ce n'est pas une structure étrangère. Et donc, nous avons décidé de résilier ce contrat et nous avons repris notre hôpital, et qui va passer maintenant en service public. C'est un hôpital construit avec l'argent des Congolais. Ce n'est pas un hôpital construit avec l'argent des étrangers. Ça a été cédé en gestion avec des contreparties qui n'ont pas été respectées. Constatant que ces contreparties n'ont pas été respectées, j'ai décidé de résilier le contrat. Mais comme il y a des clauses dans ce contrat, notamment de préavis, c'est pour ça que j'ai décidé deux choses. Premièrement, de mettre une commission provisoire qui va encadrer la période de transition pour qu'aucun dollar, aucun sou ne sorte de cet hôpital sans que nous, les Congolais, nous sachions. Deuxièmement, j'ai décidé que à partir de demain, tous les avoirs de cet hôpital seront gelés et contrôlés jusqu'à ce que le préavis se termine.
Cependant, le médecin membre du SINAMED décide de poursuivre avec la grève jusqu'à nouvel ordre. Il reproche au gouvernement congolais les non-respects des engagements. Le médecin gréviste affirme offrir un service minimum aux patients, notamment les soins urgents, l'intervention chirurgicale et la garde. Par exemple, depuis vendredi matin, l'hôpital Vidiana, où notre reporter s'est rendu, aucun malade n'a été enregistré pour la consultation. Médecin en grève, peut-on lire l'entrée de cet établissement sanitaire. On écoute Dr. John Singa, secrétaire général du SINAMED, joint au téléphone par John Tshibwabwa.
Dernièrement, les médecins ont vu que le gouvernement n'a pas respecté et honoré ses engagements. C'est comme ça que les médecins ont décidé finalement de pouvoir prolonger le service minimum. Ce n'est pas que nous avons abandonné les hôpitaux. Nous sommes là, mais nous assumons le service minimum, les services des urgences, la réanimation, etc. Les médecins vont pouvoir palper physiquement ce que le gouvernement a promis. C'est à ce moment-là qu'ils vont reprendre sans atermoiement les services de façon complète et totale. Voilà, donc on attend l'effectivité de la paix.
De son côté, l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa lance un ultimatum de 2 semaines au gouvernement après la paye du mois d'octobre pour voir la concrétisation de toutes les promesses formulées à Bibwa en 2022. Les membres de l'APUKIN l'ont dit dans un communiqué publié jeudi à l'issue de l'évaluation des engagements signés avec le gouvernement depuis 2022. On écoute les explications du professeur David Loubo, président de l'APUKIN, au micro d'Alain Irung.
Tout ce que nous voulons dire ici est que les intervenants dans tous les domaines qui préoccupent le professeur aujourd'hui les fassent avec diligence. Parce que nous avons comme l'impression que toutes les initiatives à caractère social que les chefs de l'État conçoivent sont bloquées par certains de ses collaborateurs. Nous les connaissons bien en partant des hauts cadres de l'administration jusqu'à certains politiciens qui ne veulent pas que les sociales soit prise en compte. La preuve que nous avons fait depuis 2022, on a eu à faire qu'aux promesses. Donc, nous voulons que cela cesse. Et si ça continue, eh bien, nous allons dénoncer ces politiciens et ces cadres administratifs connus qui font tout pour que les sociales du Congolais ne puissent pas connaître une avancée pour que les chefs de l'État en tirent les dividendes.
Pour sa part, au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi, le gouvernement se félicite de la poursuite, selon lui, du bon déroulement des négociations avec tous les bancs syndicaux, notamment ceux des médecins et des enseignants. Au Nord Kivu, des nouveaux combats ont opposé en début d'après-midi. Hier vendredi, les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo à Katobo, dans la localité de Mulindwa. C'est dans les environs de Kalembe, un groupement Kisimba, territoire de Walikale. Alors qu'une accalmie s'observait dans la zone, jusqu'à vendredi matin, ces soudaines détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué un autre mouvement des populations qui résistaient encore dans la zone. Rappelons que cette reprise des combats intervient 2 jours après l'occupation par le M23 RDF de la localité stratégique de Kalembe et ses environs. Au Kwilu, la CENI vient de lancer l'opération d'actualisation de la cartographie dans le territoire de Massimanimba en prélude des élections législatives prévues le 15 décembre prochain. Les préparatifs se poursuivent bien et 12 experts cartographes ont été déployés jeudi dans les différents secteurs de cette entité. La CENI a également débuté la délivrance des duplicata à ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. La nouvelle société civile locale s'est dit satisfaite de l'engagement de la CENI. Son deuxième vice-président appelle la population à adhérer et à s'approprier les processus et les candidats à se préparer. Olivier Mbangala est joint par Irène Bomaluzolo.
Hier déjà, on a commencé avec la cartographie à travers tous les territoires de Massimanimba. Donc, jusque-là, l'histoire évolue bien. Ça évolue parce que moi-même, j'étais hier au bureau de la CENI, j'avais vu comment on déployait. Les agents étaient déjà partout. On a aussi lancé l'opération Eduplicata. La confiance est là. Nous pensons que ça ira mieux. Comme lui-même, le deuxième vice-président est ici, il y aura du sérieux parce que ça commence bien. Et que les électeurs, les candidats se préparent, les électeurs aussi se préparent. On est en train de se préparer par rapport à cela. Nous demandons à la population de s'engager. Comme la CENI vient d'annoncer qu'il y aura réorganisation des élections et les processus ont commencé. Nous exhortons à la population de se donner aussi, de s'y mêler parce qu'on ne pouvait pas parler des élections sans électeurs. Et les électeurs aussi doivent comprendre que c'est la cause du territoire, c'est la cause de la province, c'est la cause de la République. Le pays a été bloqué pendant un long moment. Comme on nous a accordé les béquilles, nous devrons nous mêler pour faire avancer les choses. Et que les gens aillent obtenir les cartes d'électeurs, ceux qui ont perdu leurs cartes.
Célébration le 24 octobre dernier de la Journée des Nations Unies sous les thèmes « Agissons ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine ». Cette journée marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le texte fondateur de l'ONU. Comment les Nations Unies agissent-elles pour garantir la paix, le développement durable et la dignité humaine? C'est la préoccupation que plusieurs jeunes ont soulevée au cours d'un échange jeudi à Kinshasa avec les agences du système des Nations Unies. Précision dans ces reportages de Plamedi Biavanga.
Au cours de cette conférence, plusieurs jeunes ont profité des échanges et explications sur les différents domaines d'activité des Nations Unies, notamment sur les questions de paix. Cela leur a permis d'avoir quelques réponses à leurs préoccupations. Quelques jeunes expliquent ce qu'ils ont retenu de ces échanges.
Ça a été un très bon moment d'échange entre le système des Nations Unies et nous, la jeunesse. Il a été question de nous expliquer leurs différents domaines d'action sur les questions de paix. Nous ne laissons ignorer que le gouvernement a demandé le retrait de la MONUSCO.
Mes attentes étaient d'écouter des différentes condamnations à ce qui concerne les acteurs des crimes internationaux à travers le monde.
Aristote Ongon, coordonnateur résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, donne des éclaircissements sur cette journée.
C'est l'occasion de rappeler les valeurs de solidarité, d'être ensemble, respect des droits humains, qu'on rappelle, qu'on fasse un peu le bilan par rapport à toutes ces valeurs. Le monde aujourd'hui se trouve à quel niveau? Il faut s'arrêter, regarder un peu en arrière, surtout les jeunes, parce que c'est eux qui feront le monde demain.
Notez qu'en RDC, diverses activités sont organisées du 15 au 25 octobre par les groupes de communication des nations.
Autre nouvelle, les travaux de déguerpissement massif visant à libérer les voies publiques et les abords des écoles occupées de manière illégale ont démarré mercredi dernier dans la commune d'Ngiringiri, marquant une nouvelle étape de l'opération coup de poing lancée par les gouverneurs de Kinshasa. Cible de cette opération, les kiosques, les lits gabelots, les salons de coiffure, les garages et autres installations illégales. En quoi ces structures provisoires polluent-elles la commune d'Ngiringiri? Qu'est-ce que les gouvernements provinciaux comptent mettre en place pour que ces espaces libérés ne soient plus occupés à l'avenir? Miradine Fouengui nous en parle dans ses reportages.
Selon les initiateurs de cette opération dans la ville, la prolifération des kiosques, des cabines et des garages sous les avenues de la capitale réduit l'espace destiné aux piétons et aux véhicules. Autre reproche, les déchets qu'ils génèrent sont habituellement jetés dans les rues, contribuant ainsi à la dégradation de l'environnement urbain. C'est le cas à Ngiringiri, une habitante de cette partie de la ville explique l'état des avenues et se réjouit de ces travaux.
Je suis ravi de voir ces travaux d'assainissement. Ces kiosques la nuit deviennent des maisons. Ici, sur
et quant aux vendeuses, Ndaya s'adresse au gouvernement en ce mot.
Que le gouvernement nous trouve une solution. Nous n'avons nulle part où aller. C'est ici que nous faisons notre business.
Édouard Mwamba, bourgmestre de la commune d'Ngiringiri, explique ce qui sera fait pour que ces espaces ne soient plus occupés à l'avenir.
Nous allons collaborer avec les propriétaires de l'école afin que l'on puisse planter de la pelouse pour que nous puissions garder ça en vert. C'est ça le projet que nous avons.
Notons que les habitants d'Ngiringiri suggèrent au gouvernement provincial d'instaurer un mécanisme de suivi de ces travaux afin d'en pérenniser les résultats.
Dans la ville de Butembo, au Nord Kivu, plus de 50 enfants en situation de handicap mental sont encadrés à travers des petits métiers par la solidarité des parents d'enfants en situation de handicap mental et physique, SOPED. Selon Aki Laviso Kaindo, les coordonnateurs de cette structure qui existe depuis 2 ans, l'objectif est de soutenir ces enfants qui errent parfois des journées entières dans les rues de la ville et manquent d'affection au sein de leur famille. Car pour lui, même un enfant en situation de handicap mental peut apprendre un métier. Il s'exprime au micro de Guylaine Kassassia.
Nous avons été motivés par une situation précaire des parents des enfants handicapés mentaux et physiques. Cette initiative de l'ouverture d'un centre d'encadrement nous est parvenue suite à voir que nos enfants errent dans les rues, dans les quartiers, mendient de la nourriture et aussi ils courent beaucoup plus de difficultés. Alors nous les recevons sans aucune condition. Le parent doit être enregistré comme membre. Peut-être s'il y a un handicapé mental qui est ramassé au quartier peut-être acheminé et il sera là bien encadré jusqu'à ce qu'on trouve sa famille et aller le réinsérer. Nous les encadrons selon leur niveau mental. Il y a un service de l'assistance psychosociale qui catégorise les niveaux mentaux selon les conscients intellectuels. Parmi eux, il y a 29 enfants qui apprennent la coupe et couture, 17 qui apprennent la tricoterie, 7 qui apprennent la cordonnerie, d'autres suite à leur niveau d'handicap et ils sont là pour seulement le déstressement.
Actualité internationale.
L'ancien commandant de la LRA, Thomas Coelho, a été condamné à 40 ans de prison ce vendredi 25 octobre en Ouganda pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une peine historique car c'est la première fois qu'une juridiction ougandaise prononce un jugement pour des crimes aussi graves contre un responsable de la LRA, guérilla, qui a sémé la terreur pendant une trentaine d'années en Afrique centrale.
L'invité.
Plus d'un mois après le lancement de l'opération de traque des véhicules sans plaque d'immatriculation à Bounia, les commissaires provinciaux de la PNC en Ituri dressent un bilan positif de cette mesure. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi ce mercredi, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengeloa affirme que plus de 300 plaques d'immatriculation ont été vendues par la DGI en l'espace d'un mois. Le général Ngoï Sengeloa revient sur les déroulements de cette opération dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Commissaire divisionnaire Ngoï Sengeloa Kyo, bonjour.
Bonjour.
À quand la fin de l'opération de bouclage des véhicules sans plaque d'immatriculation à Bounia?
Nous connaissons les débuts, c'était le 13 septembre, mais à savoir la fin, non, c'est une opération qui va continuer. Chaque fois qu'il y aura un véhicule sans plaque, il sera interpellé sans autre forme de procès.
Pour avoir une idée sur combien de véhicules est-ce que vous gardez aujourd'hui en fourrière au niveau de l'état-major de la police?
Oui, au départ, quand l'opération a commencé, on est arrivé jusqu'à plus ou moins 250 véhicules. Au jour d'aujourd'hui, il n'en reste plus que 85 à la fourrière ici. Ça veut dire que entre le 13 septembre et aujourd'hui, plusieurs véhicules ont obtenu de plaques. Le directeur de la DGI nous a parlé de la vente en un mois de 280 plaques. Et sur les 280 plaques, il y a une semaine, 170 véhicules venaient de notre fourrière. Donc vous comprendrez que, en plus de véhicules qui étaient dans notre fourrière, il y a d'autres dont les responsables sont partis d'eux-mêmes de leur maison pour aller se doter des plaques. Et à la date d'aujourd'hui, la DGI a vendu déjà plus de 300 plaques. Cela démontre qu'ils quittent l'incivisme fiscal. Donc, en achetant des plaques, on respecte la loi. C'est un bilan très positif. Les gens ont pris conscience. Voilà. Il y a un élément à ajouter. Sur les 85 qui restent sur notre fourrière ici, ce n'est pas que les gens ne veulent pas aller prendre des plaques. Il y a aussi des véhicules qui ont été mal déclarés. Là, c'est encore un problème très grave. Ça veut dire que ce sont des véhicules, nous avons constaté qu'à la place des véhicules, c'était des fausses déclarations, jus, de riz, de PVC, donc plusieurs produits qui n'ont rien à voir avec des véhicules. Donc, ceux-là, ils sont punis pratiquement triplement parce qu'ils doivent aller reprendre la déclaration à la douane pour se retrouver dans le système. Aujourd'hui, ce n'est plus des plaques que vous ramassez comme ça. Vous devez vous retrouver dans le système. Et ce système-là est géré par la DGI avec les éléments reçus de la DGDA. En ce moment-là, vous accédez à vos plaques.
Qu'en est-il de la responsabilité des douaniers par rapport à cette fausse déclaration que d'aucuns qualifieraient des actes mafieux?
Non, pour le moment, on est dans l'aspect contravention, manque de plaques, on vous interpelle, vous allez obtenir vos plaques. Mais pour ce qui est de faux et usage de fausses déclarations et consorts, là c'est le pénal et c'est à l'officier du ministère public de se saisir de tous ces cas-là.
Par rapport à la fourrière, moi général, vous l'avez dit vous-même, vous avez gardé plus de 200 véhicules depuis l'opération. Mais les propriétaires de ces véhicules-là haussent le ton, disant que le frais de garde des véhicules, on leur exige 10 dollars le jour. Et en plus de ça, il y a de l'amende transactionnelle. Et encore, il faut qu'ils puissent se doter de la plaque. Et c'est beaucoup de choses à la fois. Est-ce que c'est pas trop, mon général?
Non, c'est pas trop. D'ailleurs, l'État congolais, en organisant des pénalités, tient compte de tous ces aspects-là. Donc, pour nous, les préposés de l'État, quelqu'un qui est capable d'acheter un véhicule de 10 000 dollars, de 15 000 dollars, et sera bien capable d'acheter les plaques qui coûtent 129 dollars, sera bien capable de payer les amendes transactionnelles. Vous avez tout intérêt, quand on vous interpelle, d'aller vite obtenir vos plaques. Comme ça, vous ne payerez pas beaucoup à la fourrière. Mais plus vous nous laissez garder votre véhicule, mais vous viendrez justement payer la fourrière. C'est cette fourrière-là qui va intervenir dans la gestion des ceux-là qui gardent.
Et qu'en est-il des dommages, par exemple, qu'on peut enregistrer sur le véhicule après?
Le propriétaire du véhicule est responsable de tout dommage occasionné par la fourrière.
N'est-ce pas une façon de laisser la brèche à ceux-là qui les gardent à pouvoir également causer des dommages, entre guillemets?
C'est une interpellation, justement, au propriétaire de ne pas laisser longtemps le véhicule.
Général Ngoï Sengé Lankyo, merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à Billy Landry-Bétou qui a assuré sa mise en onde et Alain Hirong-Mouchenge qui l'a préparé pour vous. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci de nous avoir écoutés.